Voilà, réaction aujourd'hui.
Oui. Merci JR, merci Arsène Akipuit et à Galvani Mboujmaï. Arsène Akipuit soutient avec raison que il faudrait relancer la production intérieure, tout le monde s'accorde, et il pose une question, comment attirer les commerçants étrangers qui viendraient et tout ça. Mais il dit quelque chose qui est en train d'être fait parce que le gouvernement a mis en place tout un comité pour l'amélioration du climat des affaires, pour exercer cet attrait des investisseurs étrangers à venir au Congo. Aujourd'hui, il y a quelques années, si vous voyez le nombre d'entreprises qui sont créées depuis la mise en place du guichet unique de création d'entreprises, si vous voyez le nombre d'investisseurs qui viennent toquer à la porte de la RDC pour voir le cadre incitatif qui est mis en place au niveau de l'ANAPI, au niveau de décret que le Premier ministre a signé pour les chaînes de valeur, ainsi de suite, tous ces éléments sont pris en charge. Donc le problème qu'il soulève, c'est qu'il faut faire la part des choses. Moi, je suis économiste de formation. La stabilité du cadre macroéconomique, c'est une chose. Mais la qualité de la croissance aujourd'hui, tout ça, parce qu'il pose une question qui dit, voilà, on a une croissance quelconque, mais cette croissance ne ruisselle pas avec le panier de la ménagère. Ça, c'est un autre débat.
Et le chef de l'État lui-même l'a dit.
Le chef de l'État
l'a dit. La conférence économique à Lubumbashi, il l'a répété lors des concertations nationales, avec un souci manifeste de vouloir, de voir, au fait, une certaine évolution sur les vécu quotidien.
Mais, mon cher ami, l'économie, c'est l'économie.
Il faut qu'il y ait un impact aussi.
S'il vous plaît, l'économie, c'est une science. Elle a ses règles, elle a ses lois. L'économie congolaise a été dans un marasme qui pendant des dizaines d'années, nous avons assisté à des taux de croissance négatifs. Aujourd'hui que l'économie est dans cette phase de reprise, il faudrait consolider cette croissance. Parce que c'est une condition suffisante. La croissance économique est une condition suffisante pour que nous puissions avoir ce qu'on appelle, entre guillemets, le social. Pour que le social, il faudrait d'abord consolider la croissance macroéconomique et la consolider dans la durée. Ce n'est pas aujourd'hui, dans moins de 3 ans, 4 ans, que nous aurons.
Des fois, c'est contradictoire, Jean-Louis. Quand on entend, par exemple, la FEC monter au créneau pour dire, le climat des affaires se détériore, le gouvernement tient un autre langage. Finalement, on est dans un flou. On ne comprend plus rien.
S'il vous plaît, c'est de la bonne
guerre. Ça perd un peu les auditeurs.
C'est de la bonne guerre. Nous sommes observateurs tous. Je peux, au-delà de ma casquette de conseiller de ministre aujourd'hui, mais je peux vous parler. Je suis enseignant d'économie à l'université. On peut observer certains agrégats. On peut observer certaines réalités. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, en tout cas, on peut se dire que non, de ce côté, il y a des avancées. Vous comprenez ? Quand on parle de la production minière, il y a 10 ans, il y a 20 ans, la production minière n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Nous allons au niveau du secteur agricole. Par exemple, l'opérateur, plutôt notre collègue de Kikwit, qui a dit qu'on ne produit que pour la consommation. Mais je lui dis tout de suite, notre base de production, certes, a connu un problème. La chute de la production dans tous les domaines, c'est vrai. Mais Kwilungongo, ici, produit, il ne produit pas seulement du sucre pour le Congo ou bien pour Kinshasa. Il produit également pour la Brazzaville, pour la sous-région. Il y a d'autres secteurs dans ce sens-là. Ce qui est vrai, que les politiques qui sont menées aujourd'hui sont d'ordre budgétaire, monétaire, pour stabiliser le cadre macroéconomique, mais ces politiques sont couplées de mesures incitatives qui doivent permettre à ce que l'économie réelle, notamment les secteurs agricoles, les secteurs industriels, les autres secteurs, les infrastructures de base, la qualité même des institutions, la qualité de la gouvernance. Le Premier ministre n'a cessé de le dire.
Et les représentants du FMI l'ont encore dit, les institutions fortes.
Oh, fortes, on n'a pas besoin. Tout ça, ce sont des mesures qui sont prises. Est-ce que, prenons par exemple, si l'on veut, aujourd'hui avec les mesures prises au niveau de la relance de la DAIPEN, on peut tout dire, la DAIPEN était une histoire jetée. Aujourd'hui, on voit quand même la DAIPEN est là, et la DAIPEN a des projets, c'est le domaine agropastoral, un projet qui est inscrit dans la durée pour se mouvoir même en province. Aujourd'hui, nous avons la réhabilitation des palmeries pour la production de l'huile des palmes et puis les usines qui vont se mettre dans le Bas-Congo. Ici, il y a une entreprise Congo Oil qui a bénéficié de l'appui du gouvernement en termes de certaines facilités. C'est pour relancer l'activité agricole. Et on demande aux opérateurs économiques, tout opérateur économique expatrié ou national qui est au pays et qui veut se relancer, qui veut relancer le secteur agricole, a un appui du gouvernement et doit s'insérer dans la chaîne des valeurs. Et tout ça, nous, au ministère de l'économie, nous avons des réunions avec des nationaux, avec des expatriés, pour intravertir l'économie nationale.
Qui ont toujours tendance à poser aussi des garanties.
On n'en disconvient pas, mais je vous dis, parce que vous me permettez, je peux citer deux ou trois entreprises. Il y a la Bralima. La Bralima qui est là, qui est une entreprise qui est centenaire au Congo, mais qui a bénéficié d'un appui du gouvernement et qui continue à nous sommes en train d'examiner les possibilités dans le cadre de chaînes de valeur. Et elle est en train de produire, au lieu d'importer, elle est en train de produire dans la vallée de Ruzizi, les intrants pour lesquels son industrie aura besoin, ainsi de suite.
Mais voilà, Jean-Louis, avant de repasser à nouveau au standard, juste une question de curiosité. Oui. Alors, notre appartenance à la zone de libre-échange commerciale, notamment notre adhésion au COMESA, il y a eu une grande conférence ici avec le COMESA. Est-ce qu'on peut dire que ça peut avoir un impact sur ce processus de dédollarisation?
Non, ça c'est un autre débat. Notre appartenance, tout ça devrait nous inciter davantage à consolider la base productive intérieure pour que nous puissions être compétitifs. Parce que demain, c'est 480 millions d'habitants pour la COMESA. Et donc, nous ne devons pas être un supermarché des autres économies. Tout ça, donc, nous devons être au rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, moi, je pense que nous y travaillons. Je pense que le gouvernement, en prenant toute la mesure, les chefs de l'État, en acceptant que nous puissions adhérer à une zone de libre-échange, a mesuré tous les éléments et donc le gouvernement s'y emploie.
Dieu merci est à Bounia, Aboubakar Saïdi est à Kinshasa et Chris Mbandaka. Dieu merci, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la Paix.
Voilà, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Votre point de vue?
Oui, en fait, monsieur le journaliste, je voulais d'abord commencer à poser une certaine question à l'évité. D'abord à lui demander quel est le temps pendant lequel on peut observer ces retombées, disons, sur la popée, sur le marché. Parce que vous voyez, ici à Bounia par exemple, les prix sont toujours à dollars. Et je ne passe pas avec la mentalité de la population, avec le niveau de la population. Vous savez qu'ici, chez nous, pour la plupart de la population est analphabète. Je ne passe pas que directement comme ça, que la population puisse comprendre de la dédollarisation dont vous êtes en train de parler sur le plateau. Donc, il faut un peu de temps, il faut sensibiliser la population, les commerçants qui n'ont pour la plupart des cas pas étudiés, en tout cas, il faut quand même un temps sur de la sensibilisation. Et puis, il faut ensuite voir la modalité pratique, comment cela doit se passer sur terrain. Donc, quand on ne le fait pas dans ce sens, je ne pense pas que cette dédollarisation soit une réussite pour notre pays, peut-être notre pays aussi pour notre économie, qui pour notre économie, qui, si vous voyez par exemple l'Ouganda, parce que nous sommes proches de l'Ouganda, comme vous venez de suivre même dans votre
France. Oui, Aïrawara, territoire d'Arou.
Oui, territoire d'Arou. Donc notre économie, nous pensons que la guerre est seulement militaire et politique, mais nous sommes dans une guerre économique. Parce que comment vous pouvez vous comprendre que dans un pays souverain, et il y a une autre monnaie qui est à
la circulation de plusieurs monnaies. Puis,
votre monnaie aller à l'étranger pour acheter, c'est tout à fait impossible. Mais chez nous, ils peuvent acheter, nous pouvons acheter avec des shillings. Notre gouvernement n'est même pas équipé pour ça. Alors je trouve quelque part que notre économie a un très sérieux problème. Dédollarisation est une chose, mais que la population puisse comprendre en est une autre.
Voilà, donc, merci beaucoup. Voilà, Dieu merci. Je sais que le dollar s'obtient parfois à un taux différent de celui de Kinshasa. Hein, dans les passés, à Bounia, c'était comme ça. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Le dollar s'échange à combien à peu près?
À Bounia, le dollar, un dollar s'échange à 930 francs congolais.
930 francs congolais. Là que les dollars, c'est voilà, donc là, c'est comme ça prouve à suffisance qu'on a, on est allé, on a vraiment approché quand même la stabilité, contrairement aux années passées. Et voilà, donc question maintenant de pouvoir en fait passer à la vitesse supérieure pour que le processus atteigne quand même, disons, le résultat escompté. Merci beaucoup, Dieu merci d'avoir appelé de Bounia. Aboubakar, Saïdi, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Aboubakar.
Oui, c'est Aboubakar Issa. Aboubakar Issa. Je suis ici depuis hier. Merci, bonjour à toute l'équipe de la radio Capi et surtout merci à tous les auditeurs de la radio de la paix qui nous suit à partir des Boutembo, là où je viens. Monsieur Jody, pour ce qui concerne la dédollarisation de l'économie de la République démocratique du Congo, premièrement, tout dépend d'abord de la conscience de tout et chacun de nous. Donc, monsieur Jody, vous allez constater même à Boutembo, là où nous vivons, il y a une forte circulation de dollars par rapport au franc congolais. Et c'est devenu comme un problème psychologique même. Parce que vous allez constater quelqu'un, vous voulez le faire 9000 par exemple, le taux chez nous là-bas à Boutembo, le taux c'est 9200 francs hein, pour 10 dollars. Alors, il y a quelqu'un, vous voulez lui faire au moins par exemple 100 dollars, 92000 francs, comme ça devient beaucoup de billets, ça devient donc il n'y a pas moyen même de porter ça dans la poche. Quelqu'un peut vous dire non, allez chercher, il faut me chercher un billet de 100 dollars parce que ça dépend même des problèmes sécuritaires aussi, hein, parce que à Boutembo, là-bas, montrer de l'argent comme ça, il y a même des bandits qui peuvent vous braquer sur les chemins. Donc, ça devient un problème sérieux. Donc, là, il y a un grand problème. Donc, notre gouvernement et surtout les ministres qui est en charge de la nouvelle citoyenneté a un grand problème pour la sensibilisation. Donc, c'est un problème qu'il faut beaucoup sensibiliser, comme mon prédécesseur l'a bien souligné. Donc, c'est un problème qu'il faut vraiment beaucoup sensibiliser, comme on le fait souvent pour des sensibilisations pour les VIH et SIDA, pour les choléra et pour d'autres problèmes. Donc, il faut une forte sensibilisation. Alors, donc j'ai aussi une autre suggestion. Donc ici il y a aussi le problème des salaires, hein, au sein des organismes internationaux. Là on paye rien que les dollars. Alors on ne paye pas les francs congolais. Ça aussi c'est un grand problème. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de donner de l'ordre à toutes ces personnes-là des organismes internationaux à chaque fois payer, donc aller dire de chaque fois payer les francs congolais et rien que les francs congolais. C'était ça jeudi.
Voilà, merci beaucoup Aboubakar, c'est plutôt JR qui est à l'antenne. Vous avez parlé au fait d'une réalité, le dollar qui se change au niveau de Boutembo à 9.2, hein, à 92 pour 100 dollars, 92 000 pour 100 dollars. Mais je crois que pour remettre à quelqu'un 92 000, vous estimez que ça risque de mettre ces derniers à en insécurité parce que c'est plusieurs coupures, c'est hein, voilà, donc il y a un pactole là, mais c'est, je pense qu'au niveau de la politique adoptée par le gouvernement congolais, c'est celle de pouvoir émettre de nouveaux billets des banques à valeur faciale adaptée. Je crois que c'était quand même une des solutions, hein, à ces problèmes. Je crois que notre invité pourrait revenir là-dessus en long et en large, tout en vous rappelant, chers auditeurs, vous qui nous rejoignez, vous pouvez également participer à ces débats en composant les 081 890 63 15, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Capi. On va poursuivre Parole aux auditeurs avec vous, Chris. Vous êtes en Bandaka. Mais avant cela, on va d'abord accorder la parole à notre invité, hein, par rapport à cette deuxième série des auditeurs que nous avons proposée. Jean-Louis, comment vous réagissez?
Oui, bienvenue, Dieu merci de Bounia. Et il me parlait du temps. Non, je ne peux pas fixer un temps parce que vous voyez.
Parce que les gens finalement craignent que ces processus puissent, au fait.
Non, c'est qui est vrai. J'ai dit.
S'éterniser et puis on va tourner en rond.
L'expérience péruvienne en matière de dédollarisation a pris pratiquement 13 ans.
Et ils sont arrivés à réduire la dollarisation à 70%.
Et aujourd'hui, c'est une économie qui. La monnaie péruvienne a été réhabilitée dans toutes ses fonctions économiques. Et donc, nous ne disons pas que nous devons également faire 13 ans, mais nous pensons que nous pouvons faire moins, mais le processus est irréversible.
Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Si mes calculs sont bons, Mouzé est arrivé en 97, 98, s'est engagé dans cette voie-là de pouvoir dédollariser le pays. Je me rappelle la première décision qu'il avait prise. Le salaire devait être payé en francs congolais et aussi on devait faire la promotion de la monnaie nationale. Et je crois que ça avait marché quand même en ce début-là. Ouais. Mais après, on est retombé encore dans.
Non, là c'était lorsque vous êtes arrivé, c'était la réforme monétaire.
La réforme monétaire, on a lancé la.
Il fallait ceci, et donc c'était le début d'un processus. Mais qu'à cela ne tienne, il y avait une dimension essentiellement politique.
Ça fait exactement 13 ans aussi.
Oui, ça fait essentiellement politique, mais la prise en compte du phénomène, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, la dédollarisation, c'est un phénomène économique, c'est de l'économie. Il y a à peine 2 ans que le gouvernement vient de définir une matrice. Des mesures, des suivis systématiquement, on se retrouve la Banque Centrale, Ministère de l'Économie, Ministère de Finances, pour suivre les différentes mesures et examiner pourquoi telle mesure n'a pas été exécutée, ainsi de suite, et tirer les leçons. Donc, et le Premier ministre lui-même suit à la loupe ces mesures. C'est pourquoi je me permets de dire, aujourd'hui, le gouvernement a opté pour une approche volontariste, faire avec les forces de marché, mais non faire contre les forces de marché. Et donc, l'approche policière est très suicidaire pour une économie qui se veut une économie libérale. Et donc, notre ami de Mbujima Galvani avait dit qu'aujourd'hui, c'est le faible taux de bancarisation. Il a raison, nous avions à répondre à cette question. Et aujourd'hui, grâce à la centrale de risque qui est en train d'être montée au niveau de la Banque Centrale, et une étude, le Premier ministre a demandé à la Banque Centrale de mener une étude au niveau de banques commerciales pour voir le niveau de satisfaction, et aujourd'hui on est à 80% pour l'applicatif interbancaire où on a logé toutes les données des banques, ainsi de suite. C'est possible qu'on puisse en arriver, et très vite, même voir à 5 ans, on peut arriver. Mais il a également dit, notre ami de Bounia a soulevé la question du faible niveau d'alphabétisation.
Tout à fait.
De tout ça. Et cela requiert vraiment des missions de sensibilisation pour que les gens comprennent pourquoi le gouvernement, et il a totalement raison, nous avons une matrice également de déploiement dans les provinces pour que, et surtout dans les grands centres, pour que nous puissions sensibiliser les populations quant à ceux. Ce qui me fait plaisir.
Et hier, nous avons parlé de 100 recommandations prioritaires. Mais laissez-moi vous dire aussi, Jean-Louis, que parmi les recommandations prioritaires, on note également le processus de dédollarisation. Voilà. Compté parmi les 100, voilà. Les 100 retenus au niveau du comité national de suivi. Oui. Donc, comme pour dire, il faut maintenant parer au plus pressé pour que la population sente que réellement il y a un effort qui est fait du côté du gouvernement pour qu'on en arrive là.
Le gouvernement en est conscient. Les économistes disent, si vous voulez détruire une économie, il faut commencer par perturber sa monnaie. Nous en savons et nous y travaillons pour ce faire. Donc il faut réhabiliter la monnaie, la franc congolaise.
Et si vous permettez, on va prendre quand même les deux autres auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Il y a Chris qui est à Mbandaka et Michel à Matadi. Comme ça, vous allez ramasser les préoccupations des uns et des autres, une fois pour toutes. Alors Chris, vous êtes à Mbandaka, bonjour.
Bonjour, je salue tous les auditeurs de la radio Capi. J'aimerais de prime abord saluer cette initiative qui a un peu plus d'éclat dans le cadre de sensibiliser la masse.
Voilà, Chris, si vous pouvez nous permettre d'avoir une bonne communication, prière d'éteindre carrément votre poste récepteur, ou si vous voulez, vous éloigner complètement de là où vous êtes, pour nous permettre d'avoir une communication très fluide.
La volonté, je vais avais fait. Je disais, j'avais deux petites questions à poser à l'Henriquien. La première est celle-ci. D'où résulte cette fâcheuse situation déplorable de la contrée des Ariwara où la monnaie ougandaise a battu son plan? La seconde question est la suivante. Par quoi se justifie...
Voilà, donc votre préoccupation, c'est par rapport à ce que venait de dire notre auditeur de tout à l'heure de Ariwara, qui, en fait, évoquait la circulation des monnaies étrangères, donc les devises de shilling ougandais, qui s'imposent parfois, qui s'imposent sur les francs congolais.
Par quoi se justifie la prévalence de la monnaie étrangère par rapport à la nôtre, en prenant l'exemple du dollar et au franc congolais?
Voilà, donc vous voulez savoir à quoi est due cette appréciation de la monnaie étrangère. Merci beaucoup, Chris, d'avoir appelé. Michel, vous êtes à Matadi. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Et bienvenue dans cette émission, Parole aux auditeurs. Quel est votre point de vue?
J'allais commenter en disant que l'initiative est vraiment bonne, parce que ça date de longtemps que les Congolais voudraient bien que leur monnaie puisse avoir de la valeur. Mais moi, je crois que c'est une longue procédure à faire. Dans quelle mesure où, aujourd'hui, nous savons, avant de l'arrivée, il faut savoir qu'il y a des procédures à suivre. La première des choses, il faut se rendre compte que nous avons une économie qui est extravertie. Nous ne produisons pas. Et je me dis, les opérateurs économiques que nous avons, lorsqu'ils viennent dans notre pays, ils viennent vendre, non pas pour qu'en retour, ils puissent jouir de notre monnaie. Ils ont une monnaie étrangère qui leur faciliterait d'aller faire aussi leur achat, là où ils achètent leurs biens qu'ils viennent nous vendre. La deuxième des choses, est-ce que le gouvernement a eu des mesures? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, parce qu'une fois qu'ils ont de l'horizon, je crois qu'il y a des gens que nous avons qui vivent de cette activité, que nous appelons communément des changeurs. Notre gouvernement peut nous dire aujourd'hui quel est le nombre de ces gens qui font cette activité. Ils sont nombreux. Est-ce que nous avons prévu un mécanisme pour qu'ils soient intégrés ou nous avons créé d'emplois pour qu'une fois que ces métiers disparaissent, que ces gens trouvent du travail? Parce que nous risquons qu'après nous puissions avoir une augmentation du taux de chômage, ce qui n'est pas bon. La deuxième chose, nous avons des lois, mais il n'y a pas la force des lois. Économiquement, je vous donne un exemple. Pas loin, pas d'ici loin, nous avons vu, le ministre a donné une loi qui faisait en sorte que les petits commerces puissent revenir aux nationaux. Mais nous avons vu que cette loi a échoué. La loi est là, mais elle n'a pas eu une force. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pensé au panier de la ménagère, on n'a pas pensé qu'il faut augmenter les salaires, parce qu'aujourd'hui, il y a multiplicité des prix. Vous allez voir dans un petit rayon, vous allez voir un bien, mais à différents prix. Et les gens maintenant ont tendance d'aller s'approvisionner auprès des expatriés qui vendent à un prix bas, qui d'aller acheter à ceux qui vendent en détail à un prix élevé. Et il y a multiplicité des prix. Moi, je crois qu'il faut d'abord une étude. C'est une bonne procédure. Mais la problématique, il faut que cela soit étudié minutieusement, petit à petit.
Voilà, Michel, merci. On a compris, on a plus assez de temps parce qu'il nous reste juste deux minutes, le temps d'accorder la parole à notre invité pour la conclusion. Merci beaucoup, Michel, d'avoir appelé et surtout d'avoir eu à faire les débats en contribuant à cette émission. Nous revenons à vous, Jean-Louis Bissanguilois. C'est vrai, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette thématique?
Oui, Monsieur JR, je voudrais rappeler à nos auditeurs, notamment à Boubacar et à Monsieur Chris de Mbandaka, pour dire que si nous en sommes au stade d'une économie dollarisée, c'est tout simplement parce que l'économie nationale avait connu un déséquilibre macroéconomique qui a conduit à une hyperinflation au point que la monnaie ne jouait pas son rôle, ces trois fonctions traditionnelles que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, pour ce faire, les opérateurs économiques, les populations, tous se réfugiaient dans une monnaie, le dollar ou autre monnaie, comme moyen pour se protéger contre cette hyperinflation persistante et croissante. Et donc, nous sommes unanimes aujourd'hui, notre ami de Bounia et celui qui est en Bandaka, tout ça vient de nous donner les taux d'échange. De l'autre côté à 92 000 et de l'autre côté à 930 000. C'est pour dire que c'est le même taux à Kinshasa, pour dire que les efforts sont réels et que la croissance économique, pour qu'elle puisse ruisseler dans le panier de la ménagère au stade actuel, c'est la requiert que nous puissions la consolider dans les temps et déjà avec des mesures de la régularité de la paye, quel que soit le niveau des salaires aujourd'hui. Je sais, je suis fonctionnaire de l'État, je vous ai dit que je suis enseignant à l'université. De plus en plus, je connais à quelle date, pendant quelle période, mon pauvre salaire là tombe dans mon compte et je peux faire des prévisions. Et donc, on ne peut pas se leurrer. Il y a quelques années, on s'est demandé, on a cumulé 3 mois, 4 mois d'impayement pour attendre. Donc, des choses, des efforts sont en train d'être faits. Notre ami...
En une phrase, parce qu'il ne reste qu'une minute, donc oui. En une phrase, qu'est-ce qu'on retient?
Donc, ce qu'on peut retenir pour le processus de dédollarisation, c'est un processus qui est engagé et le gouvernement s'y est mis. Et donc... il y a une matrice de suivi des mesures et je crois
d'autres questions. Il faut mettre à la disposition de la population,
sensibiliser la population pour qu'ils comprennent. Nous avons également aussi besoin que la population puisse accompagner le gouvernement dans ce sens.
S'en
approprier parce qu'il y a un aspect culturel de la confiance qu'il faudrait restaurer pour la monnaie. La monnaie n'est pas seulement économique, elle est aussi culturelle.
Jean-Louis Sanguillois, vous êtes conseiller chargé des structures des prix au ministère de l'économie et commerce. Merci d'avoir été des nôtres et surtout d'avoir fait les déplacements de ces studios. À très bientôt. Sous la supervision de Ben Kabamba, nous avons proposé ce programme mis en onde par Héritier Sidiakala et réalisé par Pierrot et la Mégie. Merci à tous d'avoir participé à ce programme qui a été coordonné et présenté par J.R. Lungembo. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiocapi.net. L'actualité continue sur Okapi. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. À très bientôt.